9h28, on sait qu'un des sujets de conversation préférés, c'est la météo. La météo au quotidien, la météo comme cet été. Il a fait chaud, c'était humide, il y a eu de la pluie parfois, mais extrême. Bref, on voit tous ces changements-là, c'est pas la première année. On observe donc des changements climatiques. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, parce que vous m'écrivez, qui sont sceptiques, qui considèrent que l'homme a peu d'effet sur ces changements-là, que c'est la nature qui fait son œuvre. Je vais en parler ce matin avec notre invité, qui est Alain Bourque, climatologue, directeur général du consortium de recherche Ouranos, pour faire un premier constat, puis voir un peu comment l'avenir se profile. Monsieur Bourque, bonjour.
Bon matin.
J'imagine que vous aussi, quand on vous parle, c'est toujours pour signaler des cas à travers le monde de météo extrême.
C'est assez frappant. Maintenant, je prends mes vacances, puis j'ai l'occasion de voyager un peu à l'étranger. Puis dès que je parle de changement climatique, on me raconte des histoires d'inondations, canicules, les ouragans, etc. Ça finit pas. Puis on voit bien aussi que les gens parlent de moins en moins au futur et de plus en plus au présent.
On l'a vu cet été. Si on fait, bon, Montréal qui fasse 30 degrés l'été, c'est pas anormal, là. Mais ce qu'on note, c'est la durée, l'intensité aussi. Mais c'est de voir ailleurs dans le monde des endroits qui ont affiché des températures jamais vues, là.
Tout à fait, des 46 degrés au Portugal, en Californie, des 32-33 degrés dans le nord de la Russie, dans des endroits où il y a du pergélisol, du sol gelé en permanence. En Suède, on a battu des records là, jamais vus, 38,5 degrés Celsius. Alors, c'est effectivement de plus en plus généralisé. Et ironiquement, c'est à peu près ce que la littérature scientifique dit qui va se produire depuis à peu près les 25 dernières années. Naturellement, il y a 20-25 ans, on parlait de tout ça comme un peu de la futurologie. On appréhendait ça pour 2050, des trucs genre. Mais là, on est rendu en 2018 et c'est rendu pas mal dans notre quotidien, là.
Bon, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont prétendre que, bon, c'est un été, c'est une année, on ne peut pas faire une conclusion là-dessus?
Mais c'est tout à fait vrai, là. Il peut y avoir une saison très chaude et puis l'année d'après, on revient avec une saison très froide, beaucoup plus froide que normal. Le seul truc, c'est que si on regarde les données des 100 dernières années, il y a systématiquement une tendance à avoir une atmosphère plus chaude que la normale. Au début, c'était sur l'ensemble de la planète quand on additionnait toutes les moyennes. Mais là, de plus en plus, on le voit aux échelles régionales. Chaque région vit des extrêmes en même temps. Et en passant, ça va faire bientôt, en 2018, la 38e année consécutive que la planète ne voit pas de plus froid que la normale. On est toujours dans le plus chaud que la normale. C'est un peu comme si on lançait un dé, puis on tombait toujours sur le 6. À un moment donné, là, tu prends le dé, puis tu dis, il y a quelque chose, le dé est pipé, il est en train de se passer quelque chose. Et ça, c'est un peu le lien avec l'autre partie de ce que la science nous a dit. C'est qu'on a pu prouver, hors de tout doute raisonnable, que c'est les émissions de gaz à effet de serre. C'est les gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui sont responsables de cette dérive climatique.
C'est l'activité humaine.
C'est l'activité humaine, surtout sous deux formes. La première, la plus grosse, c'est la combustion des combustibles fossiles, le pétrole, le gaz, l'huile, etc. La deuxième, c'est la déforestation, parce que les forêts, notamment l'Amazonie, étaient capables de capturer beaucoup de gaz à effet de serre qui étaient dans l'atmosphère et garder un système climatique qui était stable à 280 parties par million avant l'ère industrielle.
Les efforts lancés par les gouvernements, les fameux plans, les ententes, Kyoto, et on peut tout nommer ces grands contrats-là, là. Est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que les gaz sont en réduction ou on est stable ou en croissance?
Sur l'échelle de la planète, on est en croissance, il n'y a aucun doute. C'est essentiellement dû par les pays en voie de développement ou la Chine, l'Inde, etc., qui cherchent à s'enrichir. Là, il y a beaucoup de gens dans ces pays-là qui sont très pauvres, qui n'ont même pas un réfrigérateur, qui n'ont certainement pas de climatisation, etc. Et donc, qui essaient de rattraper le confort économique que l'on a dans les pays développés. Mais par contre, ce sont les pays développés qui ont fait le gros des émissions à date. La Chine est en train de rattraper naturellement. Et malheureusement, on ne s'en va pas vraiment dans la bonne direction. Bon, au cours des 5-10 dernières années, il y a certains pays, notamment l'Europe, qui s'est vraiment mis à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour tenter de réduire l'ampleur du changement climatique à moins de 2 degrés Celsius. Présentement, là, tous les changements que l'on voit, c'est un 1 degré Celsius de changement sur l'ensemble de la planète. Et on veut absolument éviter le 2 degrés Celsius.
Mais là, attends, je vous arrête parce que les gens vont dire « mais 2 degrés, c'est pas grave, là. Ça, c'est peu ».
Bien, en fait, il faut comprendre que historiquement, sans changement climatique, d'une année à l'autre, la température pouvait varier d'à peu près 0,2 ou 0,3 degrés Celsius. Quand il y avait une anomalie de 0,3 degrés Celsius, vraiment la planète avait eu chaud. Ça, c'est avant l'ère des changements climatiques. On est rendu à plus 1. Il y a même eu quelques années, ces dernières années, où on a enregistré des 1,2 puis 1,3 degrés Celsius, notamment à cause de El Niño, qui a réchauffé les océans, qui a provoqué des ouragans beaucoup plus violents que normalement. Et donc, on voit que 1 degré Celsius sur l'échelle de la planète, oui, 1 degré Celsius à l'échelle d'une journée à Montréal, ça ne fait pas grande différence, mais 1 degré Celsius, c'est une énorme quantité d'énergie sur la planète et ça contribue à des signaux que les scientifiques disent statistiques.
L'an passé, on a eu des ouragans quand même importants là, qui ont été dévastateurs. Et là, il semble que cette année, c'est plus tranquille.
Oui, c'est ça. C'est plus tranquille, notamment parce qu'il y a le phénomène El Niño qui est en train de se développer dans le Pacifique. Et une des caractéristiques d'El Niño, un des rares bons côtés d'El Niño, c'est que ça diminue la probabilité d'avoir des ouragans dans l'Atlantique seulement. Pas dans d'autres régions du monde, mais dans l'Atlantique. Ça fait qu'effectivement, on prévoit que l'automne, on ne dit pas qu'il n'y aura pas d'ouragan. Il peut y en avoir, il peut même en avoir des très forts, mais le nombre devrait diminuer à cause du phénomène El Niño qui se développe.
Dans le fond, ce que vous nous dites depuis tantôt, c'est que le réchauffement continue, que les émissions de gaz à effet de serre continuent, qu'il faut évidemment continuer à essayer de réduire. Mais vous ajoutez une chose qui est de se préparer au changement climatique. On ne peut pas juste se concentrer sur un plan pour avoir des véhicules plus propres, réduire la... Il faut prévoir ce qui va se passer dans les prochaines années.
Je pense que la lutte au changement climatique, c'est deux grands chantiers. Le premier chantier, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième chantier, c'est d'apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité climatique-là. Puis on le voit un peu partout à travers le monde. Ça se produit.
Mais ça veut dire quoi, ça, apprendre à vivre avec ça? Donnez-moi des exemples.
Avant de donner des exemples, juste pour vous montrer l'importance d'avoir à s'adapter. Quand on dit qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, là, c'est pas pour éviter les événements extrêmes qui s'en viennent dans les 20 prochaines années, parce que même si par magie, on réussissait à réduire, à éliminer toutes les émissions de gaz à effet de serre dès demain matin, là, le momentum dans le climat est déjà là et il est garanti que le climat va continuer à changer pour au moins 20 ans. Même si
on fermait la lumière.
Même si on fermait la lumière de la planète, le climat est parti. Il y a un momentum, il est dans son élan. Donc, pour les 20 prochaines années, là, tout bad, on va continuer à vivre des changements climatiques. Donc, on va s'en aller vers le 1,2, 1,4, 1,5. Puis, et d'où... C'est pour ça que présentement, il y a beaucoup de scientifiques qui ne croient pas beaucoup l'idée de tenter de réduire les changements climatiques à moins de 2 degrés Celsius. Là. Parce que présentement, on a déjà un acquis, déjà de réaliser, puis on a au moins 1,4, 1,5 qui est déjà là dans l'atmosphère parce que les gaz à effet de serre sont dans l'atmosphère pour 50 ans. Alors ça, c'est juste pour rappeler l'importance du deuxième chantier, c'est-à-dire de se préparer. Et ça, se préparer, ça veut dire quoi, là? Rehaussement du niveau de la mer, là, ça va continuer à se produire. En fait, c'est encore bien pire pour le rehaussement du niveau de la mer parce qu'on a probablement pour 50 à 100 années minimalement à voir le rehaussement du niveau de la mer. Ça veut dire qu'il faut réaménager nos zones côtières. Il faut revoir les infrastructures. Désolé, là, mais la Floride puis Miami puis tout ça, là, un moment donné, là, il y a un ouragan qui va passer, combiné avec le rehaussement du niveau de la mer, il va y avoir des dommages. Il y a 50% de la population de la planète qui vit le long des zones côtières. Donc, il faut repenser les zones côtières. Il faut s'en éloigner le plus souvent possible. Alors, les canicules. En Europe, en 2003, on avait vu une méga canicule qui avait causé un excès de mortalité de près de 15 000 personnes. Il faut verdir nos villes. Il faut avoir des toits blancs plutôt que des toits verts. Ça, les Grecs ils l'ont compris il y a 2000 ans, de façon à ce que les températures à l'intérieur de nos habitations soient beaucoup plus vivables. Et si on a la climatisation, bien qu'on dépense moins d'énergie à climatiser parce qu'on aura une climatisation naturelle grâce à la végétation, des toitures blanches, etc. Nos infrastructures ont été conçues et sont encore aujourd'hui conçues avec des données climatiques du passé. Il faut refaire ça, là. Il faut construire plus solide. Les réseaux d'égouts doivent être plus gros pour être capable de... En fait, c'est assez simple. On assiste un petit peu au Québec à la tropicalisation de notre climat, de notre météo estivale. Donc, on regarde ce que nos amis américains font en termes de gestion des eaux pluviales, débordements de réseaux d'égouts, les inondations. Puis, on peut s'inspirer des... Je ne sais pas si vous avez déjà vu en Floride, là, les canalisations qu'il y a.
C'est majeur.
C'est majeur. Bon, on ne sera pas en Floride non plus, là, mais il faut commencer à penser à des dimensionnements beaucoup plus gros que ça. Il faut aussi penser à l'aménagement par rapport aux ressources en eau. On prend pour acquis au Québec là, qu'on a de l'eau sans limite. Le problème, c'est que là, l'eau se réchauffe. Les polluants peuvent se propager beaucoup plus efficacement et il peut y avoir des beaucoup plus grandes fluctuations avec les extrêmes dans les niveaux d'eau autant des extrêmes par le haut, comme on a vu en 2017, que des extrêmes par le bas, comme on commençait à voir en mi-juillet cette année. Mais heureusement, comme vous avez mentionné, là, il y a eu trois journées de 25 à 30 mm de pluie qui nous ont donné à peu près 90 % de la pluie du mois, là, qui sont tombées sur le coup puis qui ont pu recharger. Mais souvent, c'est sous forme d'extrêmes. Donc,
qu'est-ce que vous dites à des producteurs maraîchers ou des producteurs agricoles qui, déjà cette année, trouvent que ça a été dur pour les récoltes? Là, je pense, j'entendais les gens sur les fraises, c'est pas une bonne année. Ça veut dire qu'il faut aussi, comme producteur, s'ajuster à ces changements-là puis prévoir les prochaines années?
Ah, mais en fait, nous, quand on travaille avec des producteurs agricoles, c'est fascinant parce que c'est eux qui nous disent des choses dans bien des cas, là. Ils voient des bestioles, des maladies apparaître qu'ils ne voyaient pas avant, mais qui se voient aux États-Unis. Donc, on voit bien les problématiques des producteurs agricoles qui viennent du Sud, qui se propagent vers le Nord. Puis effectivement, donc, il faut se préparer à ça. Puis ça, c'est un bel exemple parce qu'aux États-Unis, on utilise beaucoup les pesticides. Puis au Québec, on se munit de lois pour tenter d'utiliser moins de pesticides. Alors, c'est quoi les solutions, là? Bon, il y a la phytoprotection, on peut utiliser des ennemis des cultures naturelles pour tenter de combattre, etc. Mais tout ça est compliqué. Il faut que ça soit étudié, il faut que ça soit analysé pour se trouver des outils concrètement. Nous, travailler avec les producteurs agricoles, c'est fantastique. On a un projet avec l'UPA. Bien, c'est l'UPA qui pilote un projet pour recenser dans les différentes régions quels sont les impacts des changements climatiques puis comment on peut gérer les risques qui s'en viennent, qui sont souvent des nouveaux risques qu'on n'avait pas vu venir. Et quand c'est des risques qu'on a déjà vus par le passé, c'est une chose. Ça, on peut réussir à trouver des moyens pour gérer tout ça.
Mais je parlais avec des gens qui me racontaient que des maladies qui étaient absentes du Québec commencent à se propager. La maladie de Lyme, par exemple. Et que ça a commencé tout près de la colle et que ça monte année après année, qu'on le retrouve ça plus vers le nord, dans le bout de Farnham maintenant. On sait que la Montérégie est principalement touchée. Ça veut dire que ce qu'on voit comme phénomène, on va le voir avec d'autres types de maladies potentielles pour l'humain, là.
Ah, une grande panoplie. En fait, moi-même, j'ai appris récemment en lisant un journal qu'il y avait une araignée qui avait commencé à envahir le sud du Québec puis que le changement climatique était en cause. Puis en fait, ça, c'est bien que vous mentionniez ça parce que tout le monde parle des extrêmes. C'est sûr que les extrêmes, ça cause beaucoup d'impacts spectaculaires qui sont repris par les médias, etc. Mais un des gros impacts qui inquiète les scientifiques, c'est la transformation lente et graduelle de l'environnement naturel. Les arbres, la végétation, les oiseaux, les insectes, etc., eux, ils s'adaptent spontanément au climat. Ils suivent ce que le climat leur donne comme espace. Et puis ça vient chambouler très sérieusement nos écosystèmes. Et ça se répercute sur nous en bout de ligne. Les ressources en eau, c'est un autre sujet très intéressant. On est habitué à avoir de l'eau froide qui nous tenait toujours une bonne quantité d'eau, toujours de qualité, parce que l'hiver, on pouvait compter sur des températures très froides, ça tuait tous les insectes, etc. C'est de moins en moins le cas. Et puis déjà, au Québec, on pollue quand même pas mal nos rivières. C'est sûr que si les températures sont moins froides, c'est idéal pour une prolifération d'une mauvaise qualité de l'eau ou d'une qualité de l'eau qui va...
Parce que ce que ça pose, c'est au-delà de... Je voulais dire des changements du niveau de la mer que vous avez décrit, ce sont des questions de santé publique qui sont directement mises en cause par ces changements-là.
Tout à fait. Les canicules, ce qu'on appelle en jargon technique les zoonoses, là, toutes les maladies qui viennent, les insectes qui viennent, qui ont une transmission animale vers humain, ça va de plus en plus se multiplier. Et là, par exemple, il faut s'assurer de former les médecins pour bien diagnostiquer ces maladies-là. On sait que en lien avec la maladie de Lyme, il y a toutes sortes de nouvelles qui circulent, puis il y a toutes sortes de questionnements. Nous, on avait travaillé avec l'Université McGill à faire un diagnostic de la souris à pattes blanches qui joue un rôle important là, dans la propagation de la maladie de Lyme. Et il y a à peu près 7-8 ans, on avait déjà constaté qu'en Montérégie, toutes les souris étaient infectées, là. Donc, on savait déjà à cette époque-là que c'était une question de temps avant que la maladie de Lyme devienne une maladie aussi commune comme ce que l'on voit dans le nord-est des États-Unis. Et encore une fois, c'est en train de produire. Moi, je me souviens à l'époque, il y a 5-10 ans, quand on parlait de ça, les gens nous disaient souvent « Ah, Ouranos, vous êtes un peu catastrophique. » Même moi, je faisais des présentations avant le déluge du Saguenay, puis je parlais d'extrêmes, puis de barrages qui pourraient céder à cause des inondations, puis les gens me regardaient en disant « Mais voyons, c'est quoi cette histoire-là? » Et là, depuis le temps, il y a eu Saguenay, il y a eu verglas, il y a eu des ouragans, il y a des canicules, des feux de forêt, etc. On s'enfonce de plus en plus dans une perturbation climatique majeure. Encore une fois, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, non pas pour éviter ce qu'on voit là présentement, là, c'est pour éviter les dérapages climatiques de beaucoup plus grande envergure. Et l'adaptation, c'est vraiment pour apprendre à vivre avec minimalement ce qu'on est assuré de voir au cours des 20 prochaines années.
M. Bourque, merci beaucoup d'être venu ce matin. Très apprécié. Alain Bourque est climatologue, directeur général du consortium de recherche Uranos. 9h43, pause et on revient tout de suite après.